Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, avec qui sommes-nous en communion? Le catéchisme nous enseigne que les chrétiens, et j'espère que vous êtes tous de ce nombre, sont en communion avec les saints. Les modernistes voudraient que nous soyons en communion avec eux, qui sont des complices du démon, et le monde, je vous le dirai, nous demande d'être en communion profonde avec les amis du diable. C'est pourquoi je vous ai posé la question « Avec qui sommes-nous en communion ?» Et cette question est beaucoup moins inutile ou surfaite qu'il apparaît. Donc premièrement, la communion des saints. Deuxièmement, la communion avec le démon. Troisièmement, le libéralisme. Et quatrièmement, les remèdes. Premièrement, la communion des saints. Qu'est-ce que la communion des saints? Il est assez fréquent de la présenter comme le fait que les saints du ciel nous aident, que nous participons à leurs prières et qu'ils s'occupent de nous, qu'il y a donc un échange. Mais cela va évidemment beaucoup plus loin. Le catéchisme du Concile de Trente dit que cet article du symbole sur la communion des saints est un développement plus complet de ce que nous avons dit précédemment de la Sainte Église catholique. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun, c'est-à-dire des biens communs. Pas seulement les aides, voyez, mais tous les biens. Et le catéchisme cite saint Jean, « C'est afin que vous entriez en société avec nous et que notre société soit avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. » Cet article sur la communion des saints, dit le Concile, le catéchisme du Concile, dit que ce n'est pas seulement un développement de l'article précédent, une doctrine féconde en fruits excellents, mais aussi un guide et un maître dans l'usage que nous devons faire des vérités contenues dans le symbole. En effet, nous ne devons les étudier et les sonder, ces vérités, que pour nous rendre dignes d'être admis dans cette grande et heureuse société des saints, et pour y persévérer ensuite constamment, remerciant, c'est l'Écriture sainte qui le dit, remerciant avec joie Dieu le Père de nous avoir rendus dignes par la lumière de la foi, du sort et de l'héritage des saints. Et le catéchisme du Concile de Trente de citer saint Jean, afin que vous entriez en société avec nous et que notre société soit avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Le catéchisme précise que le fondement de la communion des saints, c'est la charité. Et lorsqu'il étudie l'Église, le catéchisme précise qu'il n'y a pas trois Églises, une militante, une souffrante, une triomphante, mais une seule Église en trois lieux différents, le purgatoire, la terre et le ciel. Puisque c'est la charité qui est le lien entre les saints de l'Église du ciel, de la terre et du purgatoire, dès qu'on parle de charité, mes bien chers frères, il faut que vous compreniez amitié. Nous vivons dans l'amitié des saints du ciel. Nous adorons avec eux le même Dieu. Nous nous réjouissons avec la Très Sainte Vierge les anges et les saints, de la gloire de Dieu, de la miséricorde de Dieu envers les hommes pécheurs, et de tous les attributs divins, sa grandeur infinie, sa sagesse, sa bonté, etc. Et même lorsque nous sommes sur la terre, occupés à des tâches matérielles qui sembleraient nous éloigner de la communion des saints et de l'amitié des saints, pas du tout. Il y a des tâches matérielles qui nous éloignent de la pensée actuelle des saints, mais qui ne nous éloignent pas de l'amitié des saints. Quand nous dormons, nous ne pensons plus aux saints, mais nous demeurons de leur amitié. Il est possible que des tâches matérielles nous empêchent de penser à eux, mais elles ne nous empêchent pas de demeurer dans leur amitié, bien plus si ces tâches matérielles sont conduites comme un service de Dieu, ce qu'elles doivent être. Elles entretiennent l'amitié avec les saints et même développent l'amitié avec les saints. À plus forte raison, lorsque ce sont des tâches prenantes mais non matérielles, des actes de vertu, de justice, nous mettons de l'ordre dans la société pour l'orienter vers les saints, nous mettons de l'ordre chez notre prochain pour l'orienter vers les saints. Ainsi en est-il de la tâche d'éducation dont je vous ai parlé pendant plusieurs sermons, qui, à certains moments, peut vous paraître ingrate, lourde, prenante, et qui, cependant, est la grande œuvre de l'Église, l'art des arts, parce que nous formons les serviteurs du vrai Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit « L'éducation forme les adorateurs du vrai Dieu ». Les adorateurs qui adorent le même Dieu que les saints du ciel en compagnie des saints du ciel. Et d'ailleurs, les enfants le savent bien. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'importance de la première communion. Par la première communion, nous entrons vraiment dans la communion, c'est-à-dire dans une union commune avec les saints. Quelles sont les conséquences? Tout d'abord, les saints travaillent à nous rapprocher d'eux. Puisqu'il y a entre eux et nous une amitié, les saints travaillent à développer cette amitié. Et c'est pour ça qu'on retient d'habitude de la communion des saints que ceux-ci prient pour nous et qu'ils nous demandent pour nous des grâces au bon Dieu. Mais ce n'est qu'une petite partie. Les saints rayonnent la lumière de Dieu, et les saints transmettent la charité. Les saints cherchent à nous rapprocher d'eux, parce qu'en nous rapprochant d'eux, ils nous rapprochent de Dieu, évidemment, dans le ciel. Lisez la vie des saints, mes bien chers frères, et faites-la lire aux enfants. J'ai le projet de faire un sermon, pas un sermon, peut-être une causerie, sur les lectures des enfants. Que les enfants lisent les vies des saints, et encore les vies des saints, et toujours la vie des saints. C'est le prolongement de leur communion sacramentelle, ils vivent au milieu du monde de Dieu. Et nous, de notre côté, que devons-nous faire? Nous devons travailler avec eux à rapprocher nos prochains, nos semblables, de Dieu, du ciel et donc des saints. Nous venons de fêter le Christ-Roi, ce n'est rien d'autre que cela, le Christ-Roi. Faire régner le Christ, c'est avec les saints du ciel travailler à rapprocher nos semblables et particulièrement notre prochain, les rapprocher de Dieu à travers les saints, à travers la Sainte Vierge. Si nous prenions les choses ainsi, cela changerait beaucoup de choses dans notre vie humaine. D'abord l'éducation. Cela, ce n'est pas le plus difficile, vous savez bien, mes chers frères, vous le savez tous, que l'éducation forme les serviteurs et particulièrement les adorateurs du vrai Dieu, mais même la politique, qui aujourd'hui a été tellement déformée, La politique, ça n'est rien d'autre qu'un travail commun sur terre pour nous rapprocher des saints du ciel. Deuxièmement, la communion que le démon cherche à mettre avec lui et avec ses complices ou avec ses séides. Tout d'abord, il faut bien préciser que cette communion avec le démon, de la part des méchants, n'est pas du tout comme la communion des saints, mais avec quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas une amitié. C'est une communion d'égoïsme. Or, c'est complètement contradictoire. Une communion veut dire une union, et l'égoïsme veut dire une division. C'est une communion de mépris de Dieu. Alors là, il y a certaines unités. Mais une unité, vous voyez, dans la destruction. C'est pas du tout une unité dans l'amitié. Une union dans le mépris de Dieu qui va même, pour ceux qui sont le plus unis au démon et à ses complices, qui va même jusqu'à la haine de Dieu. Mais qui est toujours au moins le mépris de Dieu. Parce que le mépris peut ne pas être perçu comme tel. Celui qui pêche pour satisfaire ses mauvais penchants n'a pas l'impression de mépriser Dieu, et pourtant il le méprise, puisqu'il méprise la sagesse de Dieu exprimée par la loi, puisqu'il méprise la sainteté de Dieu, tandis que la haine de Dieu, elle est nécessairement connue. Cela vous surprendra peut-être que je dise que le démon travaille à la communion, à l'opposé de la communion des saints, c'est-à-dire à la communion avec lui et avec tous ses séides. Eh bien, dans notre pauvre France qui autrefois était chrétienne et qui l'est quand même encore beaucoup, il y a un article, enfin plusieurs articles du code pénal sur la discrimination. Constitue une discrimination toute distinction entre des personnes, distinction fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la situation économique, le handicap, les caractères génétiques, et maintenant on arrive à des choses qui, elles, sont vraiment démoniaques, les mœurs, l'orientation sexuelle, le genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l'ethnie, la nation, la race, la religion. La première chose qui saute aux yeux, c'est que interdire à des hommes ces distinctions, c'est leur interdire de penser, de juger, d'analyser. On m'avait appris, à moi, à vous aussi, je pense, que dans les transports en commun, il est normal qu'un jeune homme se lève pour laisser sa place à une femme enceinte. Il y a là une distinction fondée sur la grossesse. On me dira que cette distinction est légitime. Le code pénal parle de certaines distinctions légitimes, mais la jurisprudence a de plus en plus tendance à rendre illégitime toute distinction. Mais là où c'est très grave, c'est qu'il n'est plus permis, enfin, le code pénal prétendrait interdire, mais il y a des choses que le code pénal ne peut pas interdire dans la morale. Il n'a pas tous les pouvoirs. Le code pénal voudrait interdire la distinction fondée, donc la discrimination fondée sur les mœurs. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des saints et des pécheurs, hein ? Et puis dans les pécheurs, il y a toutes sortes de pécheurs. Il est normal qu'on dise à un enfant de se méfier de certaines personnes et de certains comportements. L'orientation sexuelle, qu'est-ce qu'il est ? Il y a l'orientation selon la nature et l'orientation contre la nature. Le genre, bon, c'est une répétition de l'orientation sexuelle. Les opinions politiques, s'il ne s'agissait que d'opinions, ce serait des opinions, mais tout le monde sait très bien que les opinions politiques interdisent d'aller contre des opinions qui sont présentées comme des droits. Passons sur la nation, l'ethnie ou la race, et retenons la religion, il est interdit de faire une distinction pour des motifs religieux. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie qu'on doit se considérer en union parfaite avec tous les humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur mœur, quel que soit leur genre, quelle que soit leur soi-disant opinion politique, leurs activités syndicales, etc. Le démon a fait ici quelque chose de très fort. Il a fait un article, plusieurs articles même, du code pénal pour créer une union républicaine, une union sur les valeurs de la République qui est l'exact opposé de la communion des saints. Troisième partie, le libéralisme. Le libéralisme, c'est la négation de l'opposition radicale et complète entre le ciel et ses amis, d'une part, l'enfer et ses amis, d'autre part. Les mauvais sont amis de l'enfer, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Les bons sont amis des saints, et la plupart du temps, ils le savent. Et le libéral prétendrait n'être ennemi ni de l'un ni de l'autre, c'est-à-dire que le libéralisme nie la distinction radicale et prétend qu'on peut être à la fois des deux côtés. Eh bien, les libéraux sont les meilleurs alliés de l'enfer au milieu des saints. Aucun ami déclaré de l'enfer ne pourrait pénétrer au milieu des saints et des amis des saints et de la communion des saints, ne pourrait pénétrer aussi facilement que les libéraux qui passent pour des catholiques et qui, en même temps, ne veulent pas être ennemis du démon, c'est-à-dire qui sont pratiquement ses complices. Sans remonter trop loin, qu'est-ce que le Concile Vatican II ? Le démon a réussi avec les évêques libéraux, alors ceux-là c'était des libéraux très atteints de libéralisme, il a réussi avec les évêques du bord du Rhin, les évêques modernistes et les évêques libéraux, à pénétrer dans l'Église ce que jamais aucun franc-maçon déclaré n'aurait réussi à faire. Et le pape Paul VI, à la clôture du concile, a osé déclarer que désormais il n'y avait plus d'opposition entre l'Église et le monde. Au contraire, la religion du Dieu qui s'est fait homme a rencontré la religion de l'homme qui s'est fait Dieu, et là où il y avait autrefois anathème et condamnation, désormais il n'y en a plus. Ceux qui avaient refusé d'entrer dans ce jeu du démon, c'étaient les traditionalistes. Eh bien, le démon a envoyé des chrétiens au milieu des traditionalistes pour en faire des libéraux, c'est-à-dire les convaincre qu'on peut être à la fois ami, de Dieu et du monde. Et le principal acteur de ce sale jeu, c'est évidemment la Fraternité Saint-Pie-X de Mgr Lefebvre, infidèle à Mgr Lefebvre, qui entre sans difficulté chez les chrétiens traditionnalistes, puisqu'ils étaient leurs amis, ils le sont peut-être même encore, prétendent-ils, et qui en même temps, sans vouloir déclarer qu'ils sont amis du monde, en tout cas n'en sont pas les ennemis, et condamnent avec fermeté tous ceux qui dénoncent le monde et Satan et ses complices, et qui veulent se faire ennemis de Satan et de ses complices. Quatrièmement, les remèdes à cette situation de guerre. Premièrement, une grande fierté d'appartenir au monde des saints. Deuxièmement, le mystère de la croix, parce que c'est par la croix que Jésus-Christ a réconcilié Dieu avec le monde, en convertissant le monde, évidemment, non pas une réconciliation de modernistes, en convertissant le monde, en mettant la charité là où il y avait la haine, en mettant la charité là où il y avait le mépris de Dieu, en mettant l'amitié avec les saints du ciel là où il y avait complicité avec le démon. Et la croix, c'est à la fois la fierté d'appartenir à Jésus-Christ et en même temps, c'est pauvreté, chasteté, humilité. Les trois grandes vertus des religieux qui sont les trois grandes vertus qui ramènent le chrétien dans l'amitié de Dieu lorsqu'il avait eu le malheur de glisser dans l'amitié du démon. Voilà, mes bien chers frères, mon sermon est terminé, mais je vous dois une petite explication. Je ne vais pas pouvoir le réécouter, éventuellement le corriger. Il y aura peut-être un problème d'enregistrement ici ou là, mais mon ordinateur s'éteint à 9h, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je l'ai programmé ainsi, parce qu'il faut savoir se limiter. J'utilise volontiers les moyens modernes, mais je refuse d'en être l'esclave. Et donc j'ai mis sur mon ordinateur un petit programme que je vous conseille, qui s'appelle Horaire PC, et que j'ai programmé pour éteindre mon ordinateur à 9h. Or, il est 8h35. Que ça me plaise ou non. Donc je vais publier rapidement ce sermon, sans le réécouter. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne fête de la Toussaint, en compagnie des saints et surtout de la Très Sainte Vierge, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ et de Dieu le Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.